Mesdames, messieurs, on commence, j'aurai le mérite d'être à l'heure. Alors, ça me permet de vous présenter pour parler d'un sujet complexe. C'est pour ça qu'on a voulu avoir des points de vue complémentaires, peut-être divergents. C'est la question du choix du syndic. Mais le choix du syndic, ça n'a pas de sens s'il n'est pas rapporté à ce qu'est la copropriété. Toutes les copropriétés n'ont pas les mêmes besoins. On va sans doute parler de critères de taille, mais pas seulement. De critères d'équipement, peut-être. De critères de moyens, de budget, peut-être de localisation. Et tout simplement d'attente exprimée par les copropriétaires en termes de services. Donc le sujet est copieux. Alors, on a... une heure pour le traiter. Je vais demander à chacun un effort de concision parce que j'aimerais bien que la salle ait le temps de poser des questions à la toute fin. Pour traiter de ce sujet, j'espère que c'est complet, je crois que oui, nous avons, allez, je la cite en premier puisque je l'ai désigné, c'est Anne Coquier, elle est la présidente fondatrice de l'Union des syndicats de grandes copropriétés. Je vous parlais de taille d'immeuble, ben on abordera ce sujet avec Anne. Elle a à son côté Francis Vaillant, qui est lui-même en situation de responsabilité à l'USGC. Il en est le secrétaire général. Nous avons... alors, on n'a pas Sandra Portelli, mais parce que tout simplement, il y a un autre représentant de Foncia et de plusieurs cabinets de Foncia en région parisienne, c'est Francis Dupas, il en est le président, voilà. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui pendant des années, alors je l'accueille avec affection. Francis Bourriau, qui est juste à côté Francis Dupas, on a mis les deux Francis à côté, c'est plus commode pour l'animateur, tout simplement, hein, voilà. Il y en a un autre, c'est vrai. Il y a une grosse concentration de Francis à cette table ronde, c'est assez singulier, bon. Vous avez vu d'ailleurs que ceux qui s'appellent Francis, à part moi, ont la même coiffure. Hein, voilà. C'est pour aider, parce que ça donne des repères à l'assistance. Même si on va laisser cet écran devant vous. Francis Bourriau, il est à la tête d'un cabinet qui a la spécialité d'éclairer les copropriétés dans le choix des syndics. Il a lui-même un passé professionnel de syndic de copropriété. Il connaît bien ce métier. Alors je passe tout de suite à son confrère qui lui aussi à la tête d'un, deux, trois syndics, il a fondé cette maison, Hugues Blondet, a pour métier d'accompagner les copropriétés hein, dans le choix de leur syndic, mais ils diront un mot de leur métier finalement. Entre ces deux conseils des copropriétés, bah, on a Lionel Réchin. Alors lui, c'est un syndic, c'est-à-dire on le choisit, on ne le choisit pas. Bon, mais c'est surtout qu'avec aussi une longue expérience des responsabilités syndicales hein, à la FNAIM du Grand Paris, qui nous accueille sur ce salon, bah, il a un regard avec de la hauteur aussi sur le meilleur syndic pour la meilleure copro. Voilà. C'est pas forcément lui pour toutes les copros. C'est ce que je veux dire. Et je crois avoir cité... Non, j'ai pas cité, en l'occurrence, qui me manque-t-il C'est Vincent. Il est où Vincent? Vincent Leperc, voilà. Qui est à la tête d'une société éponyme, d'un cabinet éponyme, comme on dit, qui porte son nom, et qui représente... Alors, un autre grand syndicat qui est désormais, pour la première année, sur ce salon de la copropriété, c'est le SNPI. Voilà. Donc, syndic de copropriété lui-même, comme l'est Lionel. Peut-être, en toute logique, je me tourne vers un, deux, trois syndics. C'est un mot sur un, deux, trois syndics et sur ce métier qui n'est pas si ancien que ça, hein, d'accompagnateur, hein, de courtier, je ne sais pas comment il faut dire, auprès des copropriétés. Pourquoi on a besoin de ce métier-là aujourd'hui? Et puis juste après, alors toujours pareil, de manière très, très synthétique, mais les principaux critères. Je pense que toi, Francis, vous êtes bien placé pour nous donner une petite grille déjà de lecture et puis après on déroulera ça avec les autres experts.
Bonjour à tous. Donc moi je ne viens pas du tout du monde du syndic à la base, je faisais de la finance et j'étais président du conseil syndical pendant 7 ans. Et j'ai eu affaire à des syndics professionnels qui faisaient le mieux possible leur métier. mais je me suis rendu compte qu'il y avait deux sujets sur lesquels ils étaient mal placés pour être l'interlocuteur clé de la copropriété, ce qui est le cas au jour le jour. C'est-à-dire qu'au jour le jour, votre interlocuteur, quand vous êtes en syndic professionnel, c'est votre syndic. Il y a une fuite d'eau, il y a un besoin d'assurance, il y a un besoin d'ascenseur, il y a un besoin de conseil. Et je me suis rendu compte que, via deux événements, la mise en cause des contrats de charges, le syndic n'est pas forcément rémunéré sur cette mise en concurrence, qui est un travail très lourd, très compliqué, très long. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, j'ai un syndic qui a fait faillite et qui est parti avec la caisse quelques mois après que j'achète un appartement dans une grande résidence. Et ça a été un peu un drame parce qu'on s'est retrouvé pieds et poings liés, on n'avait plus de syndic, on n'avait plus d'interlocuteur.
Ça n'arrive jamais, ça, c'était une grosse malchance.
Malheureusement, ça arrive, et de temps en temps, et il y en a encore assez régulièrement. Donc,
c'est pas le lieu, mais il y a une loi protectrice.
Il y a des lois très protectrices, il y a des garanties, il y a toute une échelle. Donc à la fin, on a retrouvé nos fonds et tout ça, mais à ce moment-là, on s'est retrouvé sans interlocuteur et sans, et dans le cadre de la recherche. Donc je connaissais pas ce métier à l'époque, je l'avais pas trouvé par ailleurs, et donc j'ai décidé après 2 années de réflexion de lancer la société. Et donc nous, notre concept, c'est du conseil personnalisé pour les copropriétaires et de l'accompagnement. Et je pense qu'un point clé dans la question d'aujourd'hui, c'est cet accompagnement. Et l'accompagnement, il est nécessaire dans 2 cadres. Il est nécessaire pour créer une cohésion au sein de la copropriété et au sein du conseil syndical, parce que c'est une démarche que vous allez faire une fois, j'espère qu'une fois dans votre vie, pour la plupart. Ceux qui changent tous les ans, c'est un autre problème. Et c'est souvent aussi, ça vient du conseil syndical ou de la copropriété, de la problématique. Donc,
c'est que le choix n'était pas bon. C'est important de tordre le cou à cette idée-là. La stabilité d'un syndic, c'est souhaitable.
La stabilité, en tout cas sur quelques années, est souhaitable. Changer tous les ans, il y a un problème. Un syndic, c'est un investissement. Au début, monsieur, il n'est pas rentable la première année, quand il rentre de votre copropriété dans les comptes, quand il va rentrer toutes les informations, quand il va vous changer votre banque, quand il va connaître la copropriété, faire plusieurs visites, faire venir des entreprises pour reprendre. Souvent, quand il y a une reprise de copropriété, il y a un retard dans beaucoup d'exercices, il y a eu des lenteurs, il y a eu des problématiques, il y a eu des mésententes, il y a eu plusieurs choses. Donc premièrement, la première année n'est pas rentable, donc changer tout le temps, c'est pas bon pour un syndic, et c'est pas pour ça qu'il signe. Il signe pour essayer de vous accompagner sur la durée.
Très bien.
Et après, quand vous êtes au conseil syndical et que c'est une démarche que vous faites qu'une fois, la grande problématique est de savoir ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, vous venez au salon et vous venez vous renseigner, vous voyez, mais vous n'avez pas un panel énorme de syndics au salon. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est de savoir qui vont être les syndics à côté de votre résidence, à côté de votre copropriété ou à une distance raisonnable, qui ont envie de prendre aujourd'hui des nouvelles copropriétés.
Premier critère, une relative proximité.
Nous, on considère qu'il faut une relative proximité à la fois géographique du syndic, mais surtout à la fois des immeubles qu'il gère. Notre premier critère, c'est que le syndic ait une zone d'achalandise proximité. Si vous n'avez aucun immeuble dans la région, la ville et autres, vous ne viendrez pas régulièrement dans cet endroit. Vous n'aurez pas les prestataires de l'endroit. Et donc la proximité pour nous sur l'aspect zone d'achalandise plus que l'aspect géographique.
Très clair.
Un syndic peut être à quelques kilomètres, quelques dizaines. En province, c'est encore plus le cas. Mais on a des copropriétés aujourd'hui qui sont à Toulouse avec des syndics à Bordeaux. C'est pas idéal, mais on en a aussi à Nîmes qui sont aussi avec des syndics à Bordeaux, donc c'est encore moins idéal. Donc tout va dépendre de l'organisation du syndic et de sa zone d'achalandise. Alors, si tous les vendredis il est dans cette zone là pas de problème.
Premier critère, c'est
premier
très
critère,
clair,
zone
j'en vois qui opine du chef, donc je pense que c'est largement partagé. Deuxième critère, on va en sortir trois.
Deuxième critère, souvent il y a l'historique et la compétence, et surtout notre deuxième critère, c'est l'envie de vous gérer, la capacité. Un syndic, mis à part les très grands qui peuvent être autour de moi, Foncia ou autres, qui ont des grosses tailles d'équipe et qui peuvent tout de suite mobiliser, un syndic plus traditionnel aura une capacité à mobiliser beaucoup plus faible. Et donc demain, prendre un immeuble de 400 lots, c'est une équipe entière de gestion quasiment, et donc c'est des recrutements ou de la capacité à gérer. Et donc c'est une gestion de planning. Et donc c'est là la discussion que nous, on peut avoir avec les syndics. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, l'envie et l'intérêt, d'accord, de prendre cette copropriété-là.
Troisième critère, allez, un troisième.
Troisième, c'est la connaissance de votre taille et l'envie. Il y a des syndics qui sont très bons sur les petites copropriétés, des syndics qui sont très bons sur les moyennes et d'autres qui sont très bons sur les très grandes et qui ont l'envie sur ces tailles-là de faire des choses. On en parlait tout à l'heure en préparation ou en discussion avec les syndics. Il y en a qui ont des envies de faire des travaux, il y en a où les travaux les réfrènent et leur font très peur.
Comment on le sent? Alors bon, si on a un conseil, tu en fais partie, Francis aussi, très bien. Mais autrement, en discutant il faut avec le patron du cabinet, on sent ça?
Alors, pour nous, le premier critère, et on a une démarche inversée, c'est-à-dire que nous, on part avec un cahier des charges qui va décrire votre copropriété, qui va aller la présenter au syndic. Donc ce cahier des charges, il faut être le plus transparent possible. Si vous avez un conseil syndical qui ne s'entend pas, il faut le dire. Si vous avez un conseil syndical qui est en discordance sur l'aspect travaux, si vous avez beaucoup de copropriétaires bailleurs qui ne viennent jamais et qui ne sont pas impliqués et vous n'arrivez pas à faire voter les choses, il faut le dire. Le syndic va pas faire des miracles et il faut pas qu'il ouvre le capot le lendemain de l'AG en découvrant les sujets de la copropriété quand il est tout masqué.
Très intéressant, on entend ça très rarement. Comme quand on va chez le médecin, voilà, faut pas cacher un symptôme, un comportement qu'on a. Il faut dire les choses. Hein.
C'est le pire parce que vous avez un risque de rejet, comme vous dites sur le médecin. Donc il y a un risque de rejet de la greffe et que le syndic ne s'attendait pas du tout à cette problématique-là. N'est pas en face les compétences, n'est pas mis le bon gestionnaire. Si vous avez une problématique de comportement des copropriétaires, c'est des sujets qui sont différents d'une problématique travaux ou d'une problématique autre.
Alors Hugues, je t'interromps, mais c'est la règle du jeu et on reviendra vers toi. Je préfère une première intervention de chacun et ensuite on reviendra. Francis, tu es aussi conseil avec une longue expérience. Alors, c'est intéressant parce que vous n'avez pas du tout les mêmes parcours. Francis, voilà. Le courtier en syndic, voilà, qui fait le... qui lui aussi est conseil des copropriétés. Vous n'avez pas du tout le même parcours. Hein. Tu n'as pas le même parcours que ton confrère. Toi, tu viens vraiment de la copropriété. Hein, voilà, tu as baigné dans la copropriété, dans sa gestion. Qu'est-ce que tu dirais en complément, en contrepoint? Tu peux aussi n'avoir pas un avis identique par rapport à cette petite grille de critères qui a été précisée par Hugues, par ton confrère.
Alors... moi, j'ai un avantage sur mon confrère, c'est que j'ai une expérience métier de 80 à 2006. Je suis expert depuis 2006 et courtier depuis 2015. Donc, j'ai quand même un recul sur cet aspect de choix du syndic ou de mise en concurrence. Et nous avons une méthode très particulière. Nous faisons tamis entonnoir. Donc, tamis, on tamise des syndics que j'appelle éligibles en fonction de leur profil par rapport à la demande du conseil syndical. Et nous avons l'entonnoir, nous nous arrêtons à 3 cabinets et le conseil syndical choisit parmi ces 3-là.
D'accord.
Nous n'intervenons plus. Après, nous reprenons la main pour faire la convocation article 8, article 10, article 17, etc. Et nous fonctionnons également, ça c'est l'ancienneté qui nous le permet, en réseau. C'est-à-dire que lorsque nous présentons un syndic, la plupart du temps, à moins d'une nouvelle recrue, on donne des références d'immeubles qu'il a depuis 5 ans, 10 ans, et qui sont clients chez nous dans l'autre cabinet d'expertise. Ce qui nous permet d'apporter aux clients une information, d'accord, des précisions assez...
Alors, simplement, sur
les pièges,
en termes de critères, il y a la question de l'ancienneté, l'expérience du cabinet, la profondeur historique qu'on va attacher au cabinet. Il a des clients, ils sont restés stables, on peut le constater. C'est effectivement un point important. Alors après, si on va vers un syndic qui s'est créé une année avant, bon, clairement, il aura pas cette vertu-là.
Il y a quelques cas.
Voilà, mais c'est un critère. Et c'est vrai qu'on peut, de manière générale, être rassuré par un mandataire, voilà, ou un prestataire, peu importe, qui a une expérience.
Comme l'a dit mon confrère, ce qui est très important, c'est la greffe. Parce que changer de syndic, c'est pas simple. Nous, notre slogan, c'est changer de syndic, c'est facile. Trouver le bon aussi, si on aide un peu. On a un guide à télécharger sur notre site qui permet à des gens de changer de syndic sans nous. On nous le dit de temps en temps. Ça nous gêne pas. On est content pour eux. Le problème de choix du syndic, c'est quelque chose de particulier parce que vous avez des pièges permanents, en fait. Le syndic, s'il est en direct avec vous, s'il ne passe pas par un courtier, ça c'est l'avantage des courtiers, il ne va pas être filtré. C'est-à-dire, il va vous vendre sa camelote, soyons clairs, il va vous vendre son produit. Et il va voir dans vos demandes où vous êtes lacunaire, où vous manquez de compétences sur les travaux, sur le juridique, sur ce que vous voulez. Donc, l'avantage du courtier, c'est de filtrer ça.
D'accord. Alors, bon, là, tu nous expliques l'avantage du courtier. On a bien compris.
Voilà,
on a bien compris.
Les pièges. Le prix. Alors, le prix, moi, je dis en premier, le prix n'est pas bon.
Alors, important, évidemment, je voulais qu'on parle d'argent. Tu es le premier à le faire, mais on continuera. Le prix, il faut le plus bas, Le non, plus haut.
Non.
Quel est le sujet?
Plus haut, bas. J'ai un dossier là. Ils ont changé 3 fois de syndic en 3 ans. Ils sont venus me voir cette année. J'ai fait un appel d'offres. On est à 24 000. 22 000, 24 000, les 3 cabinets. Ils ont pris 3 fois de suite sur les conseils de l'Arc un cabinet à 12 000. Le dernier en date n'a pas de carte professionnelle. Ça vous donne une idée du fossé qui existe entre le bon syndic fréquentable, acceptable, pas parfait, et le mauvais syndic.
Alors, encore un mot sur l'argent et avec l'expérience professionnelle que tu as. Donc, le moins de 10 ans, c'est comme ça qu'on désigne le moins cher, c'est pas,
dit
pas,
le moins
c'est
10
pas
ans.
Un bon critère.
J'ai pas dit le moins 10 ans. Le prix hors marché.
Le prix hors marché.
50% du prix
le
marché.
Le prix hors marché, d'accord.
Il y a un loup, il y a un problème.
C'est clair, c'est d'accord. Donc, et on reviendra encore là-dessus. Donc, deuxième critère, effectivement, le bon prix et il y a un marché. Il y a un marché des services que pourra apporter le syndic. Un troisième. Je vous mets à égalité tous les deux avec Hugues. Trois critères.
Les critères de sélection sont simples, en fait. Vous allez sur Internet, vous regardez les sites dédiés. Vous allez voir que c'est ce que font les administrateurs judiciaires dans un premier temps. Vous devez déjà vérifier que le syndic est en règle avec sa carte professionnelle, ses attestations, ses documents, vérifier son cabis, etc. Vous allez être étonné, vous allez voir que certains ne vont pas produire leurs attestations loi au guet, à jour. Ils vont produire celle de 2021. Parce qu'ils ont
c'est important parce que l'expérience que Hugues décrivait, je plaisantais là-dessus, ouais. À tort parce que ça peut arriver, et je disais tout de suite après, la loi est protectrice. Encore faut-il exercer voilà, sous couvert de la loi. Hein, donc,
exactement.
Faut le vérifier.
Et il y a quand même, malheureusement, on le constate sur le marché, un certain nombre de syndics qui ne font pas les choses dans les règles, certains qui n'ont pas leur formation continue de 42 heures.
Tout à fait.
Pour les gestionnaires,
tout
ça
à
se
fait.
Voit. Donc, ça, ce sont des critères objectifs. Hein, il peut être sympathique et tout, le syndic. Ce sont des critères objectifs.
Toujours sympathique, un syndic.
Qui doivent vous inciter à éliminer ce cabinet systématiquement. Parce que s'il n'est déjà pas en règle dans la candidature, vous imaginez quand il vous gérera ce que vous pourrez découvrir. Donc ça, c'est un critère primordial. Le prix, ce critère de sélection, on va dire administrative. Alors ensuite,
allez, je t'en autorise un de plus.
Voilà, ok.
Parce que c'est toi.
Je répète
je te connais depuis longtemps.
Ce qu'a dit mon confrère. C'est après, vous devez évaluer le cabinet en fonction de son profil par rapport à votre demande. Vous avez un immeuble avec gardien, géothermie, tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas prendre un petit syndic parce que c'est compliqué à gérer. Vous gérez un IGH. Un ERP, vous n'allez pas prendre le même syndic.
Très intéressant.
Vous allez prendre un syndic qui sait gérer ça. Les ASL, c'est compliqué.
C'est de la complexité.
Les IGH, d'accord. On a 110 à Paris. Il n'y a pas beaucoup de syndics qui font les IGH.
On va bannir les acronymes. Qu'est-ce que ça voilà. veut dire IGH ?
Alors, IGH, pardon, c'est des formations.
Je pense que tout le monde sait ici, mais on ne sait jamais.
De grande hauteur.
Voilà.
ERP, établissement recevant du public. Genre voilà. Grand marché.
Ça veut dire des réglementations très spécifiques
voilà.
pour ces immeubles-là.
Très complexes.
Il faut être équipé.
Donc, il n'y a pas beaucoup de syndics
qui savent gérer ça. Je demanderai à Foncia d'ailleurs un mot là-dessus, parce qu'effectivement, on est sur de l'hyper-complexité. C'est très intéressant ce critère.
Donc, le critère cabinet, vous allez lui demander combien a-t-il de gestionnaires, quelles sont ses qualifications, combien d'immeubles par gestionnaire, combien de lots par gestionnaire, a-t-il un intercalaire, etc. Travaille-t-il en binôme, en trinôme ?
Parfait.
C'est qualitatif.
Je t'interromps. Ah, parfait, très bien, mais on reviendra vers toi. Allez, Lionel, je pense que c'est bien que tu donnes ton point de vue. Alors, on va dire avec la hauteur syndicale, comme ton confrère Le Perc va l'avoir aussi. Et puis, les autres interviendront.
La hauteur syndicale et le métier quand même un peu.
Les deux, parce que tu fais le métier, tout à fait. Mais on rappellera que dans ton syndicat, il y a une grande diversité de nature de cabinet.
Tout à fait. Effectivement, la FNAIM Grand Paris, puisque nous sommes à Paris, il y a cette grande diversité qui n'est peut-être pas systématique partout en France. Mais effectivement, à Paris, vous avez du petit cabinet avec deux personnes jusqu'à effectivement des groupes très importants comme Foncia. Alors moi j'ai toujours pensé qu'un syndic, quand j'ai eu la chance de commencer directement comme patron. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu personne qui m'a formé à ce métier. Alors évidemment j'étais juriste, hein, j'avais fait du droit immobilier, mais je me suis fait moi-même à l'idée de ce qu'était un syndic. Et j'ai toujours pensé que nous vendions deux choses. Parce qu'il y a un prix, hein, vous payez des honoraires, donc nous vendons quelque chose. Nous vendons de la compétence, donc du conseil, mais nous vendons aussi du temps. Et moi, j'ai toujours cette impression que lorsque des copropriétaires nous consultent, ils devraient nous appeler un peu plus souvent, demander tout de suite le numéro de téléphone du directeur pour pouvoir discuter, le revoir plusieurs fois. Parce que si un syndic peut accorder ce temps de rencontre à quelqu'un qui n'est pas client, c'est qu'a priori, il aura aussi du temps ultérieurement. Parce que ça, c'est très important. Quelle que soit la taille du cabinet, vous pouvez avoir 500 salariés ou 5000 salariés, mais ne pas avoir le temps de récupérer, en tout cas les gestionnaires n'auront pas forcément le temps de récupérer plus de copropriétés. Donc il faut mesurer ce temps.
La disponibilité pour le client, ce syndicat des copropriétaires.
En amont, et ne pas hésiter à rencontrer l'immeuble, bien sûr.
Très bien.
Déjà, c'est un critère. Est-ce que le syndic se déplace sur l'immeuble pour faire un syndic? Ça, c'est un critère important, déjà. Est-ce qu'il le propose lui-même?
Toi, tu dis, je veux faire un devis, je me déplace.
Ah, bien, oui. Oui,
non,
oui.
Mais c'est pas si évident que ça. Alors, c'est pour ça que j'insiste.
Moi, quelquefois, j'ai des copropriétaires qui nous consultent et qui nous demandent d'établir un devis rapidement parce que l'AG est bientôt. Ils nous ont entendus, ils nous ont connus soit à travers une conférence,
oui,
soit le bouche à oreille, et ils me demandent de faire un devis rapidement. Je refuse. Si déjà le syndic refuse en disant non, moi je veux voir l'immeuble. C'est déjà un bon critère.
Oui.
Si en plus, il trouve le temps de se déplacer rapidement, voire de se déplacer deux fois, voire de se déplacer à l'occasion entre deux rendez-vous, s'il se rend disponible pour
rencontrer
vous, c'est un autre critère.
Un membre du conseil syndical, voilà, le président. Oui.
Ça, c'est très important pour moi. Parce que après, ce dont vous avez besoin, c'est du temps d'écoute, du temps de conseil, du temps de gestion, bien sûr. Mais c'est très important, le temps, pour un syndic. C'est d'ailleurs ce qui nous manque souvent. Enfin, je parle à mes confrères, c'est ce qui nous manque souvent. Mais il faut le trouver. Alors, le deuxième critère, c'est la solvabilité du cabinet. Alors évidemment, si vous avez Foncia, vous ne posez pas la question. C'est une très belle société qui fonctionne très bien, qui est très bien gérée.
Il faut regarder quand même. Hein.
Bien sûr, mais on le saura vite.
Il y a des rapports d'activité.
Mais on le saura très vite dans les médias. Si Foncia se fait à perdre de l'argent, on le saura très très vite.
Non, mais c'est très sérieusement.
Mais regardez la solvabilité des cabinets.
Très important.
Ça, vous allez sur Infogreffe, vous allez sur société.com. Regardez, un syndic qui ne publie jamais ses comptes, personnellement, je trouve ça anormal. Pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, c'est obligatoire. Et ensuite, vous allez confier votre argent à un syndic. C'est un critère fondamental, la solvabilité. Ça ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent. Ça veut tout simplement dire être correctement géré. Il y a des ratios. Vous pouvez demander à des comptables. Vous avez sûrement des comptables dans vos amis. Vous lui demandez. Mais la solvabilité, c'est extrêmement important. Vérifiez. Moi, personnellement, un syndic qui ne publie pas ses comptes depuis des années, je me méfierais.
Ah, voilà.
Et je vise personne, hein, parce que je ne regarde pas les comptes de mes confrères.
Tu es très clair sur le critère.
Mais je me méfierais. Je trouve ça anormal.
Allez, toi aussi, un troisième critère.
Et un troisième critère. Alors, le troisième critère, je rejoindrai, c'est effectivement la proximité, mais sous le très bon regard et très juste regard de la zone d'achalandise. Si effectivement, votre syndic a des immeubles à côté du vôtre,
ça
c'est génial. Voilà, parce qu'il viendra plus facilement. Ça, j'avais jamais pensé à ce critère de la zone d'achalandise. Ça va me permettre de l'utiliser. Merci. Mais c'est très bien. C'est mieux que la proximité.
Oui, c'est
la
beaucoup plus précis,
beaucoup plus fin, beaucoup plus.
Tout à fait.
Je trouve ça assez remarquable. Voilà.
Parfait. Très
voilà
bien.
Voilà pour trois critères.
Merci beaucoup. Allez, Anne. On a parlé de complexité. Francis nous disait, il y a des complexités juridiques. J'évoquais tout de suite tout à l'heure la question de la taille. Alors. L'union que tu as créée rassemble des très grosses copropriétés, mais il y a un côté exemplarité. Bon, tu peux aussi parler, d'ailleurs tu vas nous dire quel est le critère de ce qu'on appelle une grosse copropriété dans ton association. Il n'y a pas que des très grosses, d'autres y sont éligibles, en tout cas ce ne sont pas des petits immeubles. Quelle importance t'accorderais à la taille dans le choix du syndic et que faites-vous à la tête des grandes copropriétés quand vous choisissez un syndic? Quels sont vos critères à vous?
Alors, l'USGC, merci Henri. L'USGC a été créé en 1991 et au regard de la loi de juillet 65 qui était muette face à ces grands ensembles, nous regroupons actuellement des copropriétés de plus de 100 lots. Notre critère à nous, c'est dans nos statuts. Hein. La grande copropriété commence à 100 lots. Au départ, c'était 1000, mais il n'y en a pas tant que ça. Et parmi nos adhérents, il y a effectivement, même au-delà de 1000 lots, des copropriétés qui sont en syndic coopératif. Alors, d'ailleurs, il y a dans la salle Élisée 2, qui est en syndicat coopératif, et Francis, qui a longtemps travaillé pour une grosse copropriété également.
Et Francis s'exprimera sur cette façon de gérer.
Les trois critères qu'annonçaient les syndics, réactivité, proximité, et le troisième, je ne me souviens plus, mais...
expertise avec divers critères.
Ce sont les mêmes que l'on demandera au conseil syndical qui se met en syndic coopératif. C'est-à-dire que la réactivité, la proximité, il est sur place. La réactivité, on espère qu'il en aura. Alors le prix, après, c'est différent. Mais quelle que soit la taille, si le conseil syndical n'est pas réactif, ça ne marchera pas. Et c'est évident que pour un conseil syndical, et moi je dis chapeau à, par exemple, Élisée 2 qui est dans la salle, parce que s'occuper comme un syndic professionnel, en bénévole, d'une grosse copropriété comme ça, c'est énorme. C'est vraiment énormément de temps. C'est du temps, c'est presque un plein temps. Alors après, il y a des outils de gestion, bien sûr, mais enfin, c'est quand même un plein temps.
La question, quand on est un grand immeuble, alors tu l'as dit, vous avez mis la barre à 100 lots.
À 100 lots, oui.
Bon, ça veut dire que on est très vite une grande copropriété. Et puis, fatalement, lorsqu'on va être à 500, 1000 lots, on peut appeler ça une très grande copropriété avec des problématiques spécifiques liées à la taille. Est-ce que c'est la complexité, la taille? On parlait d'ASL, de RP, c'est encore autre chose. Est-ce que la taille, c'est forcément une complexité
alors,
pour le syndic?
Alors, pas forcément. C'est aussi intéressant parce qu'on a du monde face à nous et que l'on retrouve... Par exemple, moi, je représente par les deux, hein, 7500 lots. On retrouve quand même parmi nos copropriétaires des sachants et qui travaillent main dans la main avec le syndic. Hein. Donc,
C'est-à-dire des conseils syndicaux beaucoup plus experts aussi. Parce que tout simplement, statistiquement, on peut trouver
un
ingénieur, on peut trouver un juriste,
absolument,
c'est ça.
Absolument, voilà. Absolument. Et puis, plus de monde pour s'impliquer, ce qui n'est pas toujours évident quand même, parce que c'est de moins en moins facile, parce que le bénévolat, c'est de moins en moins facile à tous les niveaux, et dans la copropriété aussi.
Le budget, bon, les grosses copropriétés ont des budgets très importants, voilà, parce que c'est mécanique, hein, tout simplement, il y a plus de copropriétaires, donc... Elles ont beaucoup d'argent à mettre aussi, à confier au syndic pour engager des travaux, pour engager des évolutions techniques. Est-ce que certains syndics sont réticents par rapport à ça? Est-ce que forcément un syndic se dit, moi je préfère un budget de 800 000 euros que de 80 000 euros, je saurais faire.
Oui, alors les budgets ils sont quand même pas élastiques non plus, hein, c'est pas parce qu'on est nombreux, chacun après c'est chaque copropriétaire qui paye, c'est son porte-monnaie qui est à l'appel, donc oui évidemment que pour engager des travaux quand on est plus nombreux, on peut se permettre de voir un budget un peu plus important, mais c'est pas non plus la taille qui fait que le copropriétaire peut avoir des charges plus importantes.
Hein. Est-ce qu'une grosse copropriété, allez, on va dire 500 lots pour faire bonne mesure, peut choisir un petit syndic? Il y en a beaucoup, hein, le tissu professionnel, Lionel le disait, hein, il est clairement d'entreprises familiales et artisanales, même dans une grande ville comme Paris, a fortiori ailleurs. Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai un budget important, j'ai 500 lots ou j'ai 1000 lots, je vais choisir un syndic artisanal, il y a trois personnes. Est-ce que ça s'est déjà vu dans les
copropriétés? Il faut qu'il y ait suffisamment de gérants pour être présent. Il faut qu'il y ait suffisamment de
moyens humains,
et puis cette proximité, effectivement, parce que nous, ce qu'on favorise, c'est vraiment la réactivité et la présence souvent sur site, quoi.
Voilà. D'accord. Alors, on reviendra vers Francis Vaillant, parce qu'effectivement, cette typologie particulière... Mais pas tout de suite, Francis. Je voudrais que Francis Dupas s'exprime d'abord. Mais on parlera effectivement du syndicat... Du syndicat bénévole, de la structure coopérative. Francis Dupas, t'es patron d'un... De plusieurs cabinets fonciers, tu as aussi une longue expérience de syndic de copropriété. Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui renvoient, Foncia c'est le leader en tout cas, qui renvoie ce qu'on appelle les grands groupes nationaux de gestion. Ça t'inspire quoi? Lorsqu'on parle de solidité financière, oui, vous répondez, quand on est une très grande entreprise, on montre patte blanche, c'est pas un sujet.
Bien sûr.
La disponibilité, moi j'entends des critiques aussi sur les groupes très importants, ils sont pas assez disponibles, les gestionnaires, on n'arrive pas à les joindre. La proximité, mais elle est relative, parce qu'on a les moyens de prendre des copropriétés très loin, donc on s'en prive pas. voilà, est-ce que vous avez des atouts qu'on ne voit pas et peut-être des défauts qu'il faut aussi mettre en avant parce que, voilà, le bon syndic pour la bonne copro. Et la question de l'argent, tu ne vas pas y couper non plus, la question des prix.
Oui, oui, bien sûr. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Il est clair que la proximité du syndic, c'est quand même une des clés importantes du succès pour bien gérer un immeuble. D'ailleurs, aujourd'hui, Foncia a quand même une localisation
sur
toute l'Île-de-France avec un maillage de proximité. Et dans notre organisation interne, on tend au maximum à transférer les immeubles ou d'ailleurs les propriétaires bailleurs le plus proche possible des agences de proximité pour que à la fois ça soit facilitant pour les copropriétaires, mais aussi facilitant pour les collaborateurs, parce que l'enjeu de demain pour la copropriété, c'est évidemment de satisfaire les copropriétaires, mais c'est aussi d'avoir des collaborateurs motivés et qui soient impliqués pour le succès, parce que c'est un métier de service, c'est un métier qui implique qu'on aime satisfaire les clients. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très important dans notre recrutement et dans la formation interne d'avoir des gens qui soient tournés vers le client et qui soient mobilisés au maximum pour eux. Donc oui, pour un maillage de proximité et oui, pour avoir des constructions de portefeuille qui permettent, en fonction du niveau des collaborateurs dans nos cabinets, d'avoir les copropriétés qui leur ressemblent ou en tout cas qui peuvent correspondre à leur niveau de compétence. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur les AFUL, les ASL, les petits immeubles.
La complexité.
La complexité. Pendant longtemps, on a pensé que Foncia n'avait pas l'envie, en tout cas, de gérer les petites copropriétés.
Il y a bien pas de Foncia, d'ailleurs. C'est
bien
vrai que les syndics professionnels, on peut regarder
sûr.
Avec dédain hein, les petites
mais
propriétés.
Bien au contraire, on a une vraie volonté de gérer les petits immeubles. Et nous avons des organisations en interne qui nous permettent justement d'avoir des portefeuilles à mesure pour que les copropriétaires de ces petites copropriétés, avec des enjeux tout aussi importants que sur les grosses, hein, notamment sur la transition énergétique et sur les projets de rénovation énergétique. Et nous avons aujourd'hui cette façon de construire nos modèles internes pour que nos collaborateurs se sentent bien et restent dans la durée, parce que je pense que tout syndicat de copropriété a pour objectif d'avoir une relation dans la durée.
Ça peut être un critère, on peut demander au syndic, après il faudrait le vérifier, mais la stabilité de ces équipes.
C'est important parce que c'est important aussi pour nous en interne, parce que ça nous permet d'asseoir les compétences et de faire progresser en interne le niveau de compétences des équipes. On fait évoluer nos collaborateurs en interne, parce que la promotion chez nous, c'est quelque chose qui est aussi un point clé. On aime bien que nos collaborateurs puissent avoir un parcours professionnel en interne qui lui permette d'accéder à la fois à des immeubles progressivement de plus en plus complexes associés à des plans de formation en interne et aussi avoir des évolutions de rémunération qui leur permet d'avoir une vie stable et de faire une carrière professionnelle
perspective
de 20 ans, de 30 ans. Moi-même, ça fait 25 ans que je suis au sein de Foncia.
C'est vrai, j'en atteste.
Voilà, Sandra Veportelli qui est avec moi est là aussi depuis 20 ans. On a beaucoup de collaborateurs qui sont très anciens chez nous et pour nous, c'est un sujet très important parce que la compétence, c'est avant tous ces collaborateurs. Ensuite, on a des organisations internes qui permettent évidemment de répondre à toutes les difficultés de toutes les copropriétés. Et un sujet qui va être majeur, je pense, en 2023, c'est celui des impayés des copropriétaires. Parce que vous savez très bien qu'il y a une inflation très importante des charges qui sont liées à la fois au sujet du chauffage, de l'électricité, mais aussi de tous les fournisseurs qui ont des coûts d'exploitation qui vont avec l'inflation. Et on voit les charges de copropriété qui ne cessent de progresser. Par rapport à ce sujet, on constate une progression des impayés à certains endroits. Et il faut vraiment protéger le syndicat des copropriétaires pour pouvoir avoir une trésorerie qui permettent de payer les fournisseurs en permanence. Et donc, il est très important, je pense, pour un immeuble aujourd'hui de comprendre quelle est la méthode et quelles sont les pratiques de recouvrement pour s'assurer d'avoir une trésorerie saine et permettre de faire face à l'avenir. Oui.
Très important et sans doute, malheureusement, pendant les années qui sont devant nous. Hein, voilà, ce n'est pas un problème de 3 mois.
Hein,
donc,
et
capacité de recouvrement. Question du prix et ensuite, je me tournerai vers le SNPI et aussi de nouveau vers l'USGC. Qu'est-ce que tu dirais sur le prix? Alors aujourd'hui, on a entendu qu'il y avait un marché. Pour être très clair, il y a du dumping sur ton territoire et tu connais l'ensemble de ton groupe. Il y a des syndics qui se mettent en difficulté mais qui vont emporter des copropriétés parce qu'ils se mettent en dessous du marché très nettement.
Oui, alors, bon, on a vu que c'était un phénomène qui était assez récurrent parce que finalement, bon, comme vous le savez, on rachète beaucoup de cabinets d'administration de biens. Nous aussi, on regarde évidemment les bilans des sociétés que nous rachetons. On constate que finalement, il n'y a pas de miracle. Soit on fait du low cost et à ce moment-là, la prestation n'est pas là et la masse salariale des collaborateurs est très basse. Et du coup, on a le service qui est souvent associé finalement à la charge d'exploitation de ces cabinets. Je pense qu'il y a un prix de raison à trouver pour chaque immeuble en fonction aussi de sa complexité. On ne peut pas faire le même tarif quand on a 200 000 euros d'impayés dans un immeuble sur 15 copropriétaires et des ensembles d'éléments d'équipement commun qui sont extrêmement importants avec beaucoup d'ascenseurs, des chaufferies collectives, des toits terrasses à entretenir.
Bien sûr.
Un ITE à faire, pardon, un ravalement à isolation thermique extérieure.
Un gardien, un concierge à gérer.
Voilà, et des concierges à gérer, etc. Ça, je veux dire, il y a vraiment du sur-mesure. Et chez nous, on a à cœur à chaque fois de mettre le prix qui correspond à la prestation qui est à fournir pour optimiser finalement l'entretien de ce patrimoine.
D'expérience, les copropriétaires l'entendent ça parce qu'on dit beaucoup, ben voilà, les copropriétaires c'est des consommateurs comme les autres, ils cherchent le moins cher, d'où le risque de passer hors marché. Est-ce que quand on défend bien, qu'on met les différents arguments qui répondent aux grilles qui ont été précisées, ben ça le fait quoi?
Alors ça le fait sans aucune difficulté parce que quand vous regardez le montant des honoraires du syndic dans la volumétrie des charges, souvent ça représente finalement une somme qui tourne entre 3% et 5% des charges de la copropriété. Si le client est satisfait et si le client permet a en face de lui un syndic qui lui permet de valoriser le patrimoine et d'avoir finalement une meilleure valeur de son bien et un entretien qualifié de l'immeuble, je pense que les copropriétaires sont prêts à payer, surtout quand ils ont connu de mauvaises expériences avec quelques confrères. Alors, je ne dis pas tous, parce qu'il y a vraiment des gens compétents ailleurs, hein, et on n'est pas là pour cracher dans la soupe, mais on rencontre parfois, on voit des syndics qui cassent les prix, qui n'offre aucune prestation, et on récupère, nous, quelques années plus tard, des copropriétaires en grande souffrance psychologique et financière, avec des immeubles très dégradés et des difficultés à revendre les biens. En plus, quand on voit aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup d'obligations réglementaires quand on vend un appartement, et notamment sur le DPE à la fois privatif, mais demain avec le DPE collectif, puisque avec le plan pluriannuel de travaux et le DPE collectif, il y a de plus en plus d'obligations qui pèsent sur l'ensemble immobilier et qui vont se répercuter sur la valeur de chaque logement. Donc je pense que pour tous, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un embellissement de l'immeuble et un entretien de plus en plus constant pour répondre aux obligations réglementaires.
Merci beaucoup, c'est très précis. Je crois qu'il y a assez de micros. À l'autre bout de la table, il y en a deux et il reste deux interventions. Vincent, il y a un sujet qui n'a pas été vraiment abordé ou latéralement, celui de la digitalisation des syndics, les outils digitaux à leur service. J'aimerais que tu nous en dises un petit mot, ou peut-être d'autres ensuite. Et puis, comme tu viens après des interventions, qu'est-ce que tu nuancerais, qu'est-ce que tu apporterais en complément avec ta grille aussi d'appréciation, ton expérience professionnelle peut-être aussi, au SNPI, vous avez un adhérent assez important qui s'appelle Foncia, bon, donc c'est le leader. Et puis vous avez aussi ces fameux cabinets que j'évoquais, hein, qui sont le tissu professionnel partout en France, cabinets artisanaux, familiaux, donc peut-être un regard plus particulier. Tu es l'exemple, hein, d'un cabinet familial, hein, il porte ton nom. Un regard sur ces cabinets-là et les atouts qu'il faut exiger d'eux.
Oui, alors avant de répondre à la question sur la digitalisation, je vais répondre à la dernière question. Au niveau, donc, d'abord pour mon expérience personnelle, et je vais répondre. Alors, tout ce qui a été dit, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Il faut savoir que nous, le groupe, hein, a été créé par mon père, donc il y a 40 ans, et donc on exerce le métier de syndic depuis 40 ans en nom propre. Donc on fait partie de ce qu'on appelle les petits cabinets, les petits syndics de province.
Les deux générations, c'est intéressant l'histoire des générations. Hein.
Deux générations, oui. Et franchement, je suis fier de vous dire que nous n'avons jamais perdu une copropriété. Jamais. Alors, pourquoi, hein, on n'est pas des magiciens, et ça parce que ça répond à tout ce qui a été dit. La proximité, la confiance, c'est hyper important d'avoir confiance dans son syndic. Et comme je dis toujours à mes collaborateurs, et j'en ai un qui est dans la salle, faites pas de bêtises, hein, c'est mon nom qui est sur la porte, quoi. Donc il y a ce lien de
la proximité. La réputation.
La réputation, la notoriété et la proximité avec les clients. Et moi, je suis intimement convaincu que le métier de syndic est un métier très difficile, usant, mais passionnant, parce qu'on gère du logement, on gère de l'immeuble. Et le lien avec les copropriétaires et avec les conseils syndicaux doit être hyper fort. Et j'entendais parler de disponibilité, de proximité, mais c'est la clé. Et le prix vient presque après.
Oui.
Parce que nous, on nous a toujours dit, mais vous êtes plus cher que les autres. Et pourtant, les gens nous ont toujours gardés. Parce que quand le client est satisfait de la prestation, il paye le prix. Et quel syndic pour quelle copropriété demain, vu tous les défis qui attendent les syndics demain au niveau des immeubles, bien sûr, il faut très bien choisir son syndic et c'est pas facile. Et donc, je rejoins mes collègues courtiers là qui disent qu'ils aident à choisir les syndics parce qu'il faut choisir un bon syndic et c'est pas simple. Pour moi, on change pas de syndic tous les ans, quoi. Il faut trouver le bon et après, c'est une sorte de contrat de confiance.
Est-ce qu'il faut s'attendre même, bon, je mets les pieds dans le plat, à une majoration dans les 2-3 ans qui viennent? On parlait de la mission d'accompagner la transition environnementale, mission très difficile de recouvrement des charges parce que ça tire. Hein, voilà, bon, plus de boulot, la réglementation, ça ne va pas s'arrêter. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation? Ça restera faiblement important dans l'ensemble des charges, hein, mais une augmentation des honoraires de syndic. Est-ce qu'il faut dire il faut que notre syndic soit bien payé, parce que tout ça, il n'arrivera pas à le faire autrement. C'est une illusion.
Alors moi, je vais nuancer le propos et je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais on parle de performance énergétique. Donc il y a la notion de performance. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment aussi parler de performance du syndic? C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, je fais aussi le métier de transacteur. Quand mes commerciaux font des ventes, ils sont rémunérés par rapport à la performance, par rapport à ce qu'ils vendent.
Bien sûr.
Le syndic, aujourd'hui, demain, va devoir être performant. Est-ce que sa rémunération doit être fixe? Je pose la question, je veux dire. Mais en tout cas, il y a eu une notion de temps. Ce qui est sûr, c'est que si le syndic doit y passer plus de temps, le temps, c'est de l'argent, il devra être payé plus. Enfin, c'est juste une évidence. Maintenant, deux mots quand même sur le syndicat, le SNPI que je représente aujourd'hui, parce qu'il y a un thème qu'on n'a pas, enfin, ou en tout cas qu'on a peu abordé.
Parce qu'on te l'a laissé.
C'est la notion de compétence et de formation au niveau des équipes, des collaborateurs. Parce que le métier de syndic est un métier très complexe, aussi bien d'un point de vue juridique, bien sûr, financier, mais technique.
Oui.
Et surtout avec la performance énergétique. Et donc, c'est important aussi que les collaborateurs, donc bien sûr les syndics qui sont titulaires de la carte, mais aussi les gens qui travaillent dans nos cabinets, soient très bien formés et continuent à être formés, parce qu'à l'avenir, il va falloir se former de plus en plus. Et tu me posais la question sur la digitalisation. Bien évidemment, donc maintenant, depuis la loi Allure, l'extranet est obligatoire pour tous les syndics de copropriété, etc. Mais il faut de plus en plus aller vers la digitalisation. Après, il y a aussi toute cette notion de DPE, hein, qui sont quand même, bon, avec la nouvelle loi, le DPE, ça reste quand même un modèle numérique qui donne un résultat sur un logement ou sur un immeuble.
Tout à fait.
Il faut derrière quand même que certes, il y a des diagnostiqueurs qui les font, mais il faut aussi que les collaborateurs soient capables d'analyser ce diagnostic, de l'exploiter. Et ensuite, il y a toute une notion de compétence par rapport à la gestion de travaux, savoir trouver les bonnes entreprises. Et je poserai aussi la question du financement, comment on va payer tout ça.
Ça fait.
Et donc, Tout ça, ça demande de la compétence, de la formation. Et bon, moi, je représente aussi le COPI, donc qui regroupe aussi bien la FNIM que l'UNIS et le SNPI. On travaille beaucoup là-dessus au niveau de la branche professionnelle pour, il y a un CQP hein, sur les gestionnaires de copropriété, pour que les gens soient formés et
montent en compétences.
Et montent en compétences parce que c'est pour moi l'enjeu de demain si on veut avoir des bonnes copropriétés.
Avant que Francis, qui peut déjà prendre notre micro, n'intervienne, sur l'extranet, je ne l'ai pas entendu, mais parce que je ne leur ai pas laissé assez de temps hein, non plus de la part des courtiers, mais est-ce que regarder l'extranet, un extranet type d'un syndic, lui demander comment il communique avec cet outil-là qui a été rendu obligatoire, hein, enfin dont la présentation a été rendue obligatoire par la loi, est-ce que ça peut être un bon critère? On regarde l'extranet et là on voit si, bah, je sais pas, s'il est transparent, s'il est convivial, comme on dit au plan digital.
Alors très clairement, hein, sur l'extranet, donc obligation légale pour tout le monde, mais là après il y a deux niveaux, hein, voilà. Je veux dire, très clairement, ou trois niveaux même. Donc bah, oui, vous avez raison, trois niveaux. Alors le premier niveau, bah, évidemment, c'est les grands groupes type Foncia, Citia, qui eux, dès le départ, avaient même déjà des services avant même que la loi arrive. Après, il y a les petits syndics comme nous qui s'y sont mis, mais qui ont eu un peu plus de mal, il faut être honnête, parce que ben, il a fallu qu'on s'adapte, trouver le bon logiciel, etc. Et
puis, il faut les alimenter.
Il faut les alimenter, bien sûr. Et puis, alors, il y en a où il n'y en a pas du tout. Hein. Ça peut être des syndics bénévoles ou bien même des petits syndics qui sont passés à côté.
On rappellera que l'obligation est une obligation de présentation. C'est-à-dire qu'un syndic qui n'en a pas n'est pas répréhensible dans la loi. Hein. Sauf si les propriétaires le demandent et qu'il n'en fournit pas. Voilà. Mais il doit proposer d'en créer un. Il n'est pas obligé d'en avoir un. Hein.
Mais bon, je pense que petit à petit, c'est en train de se normaliser.
Oui, bien sûr.
Ça reste un outil vraiment très, très intéressant, faut être clair. Et ça permet, en effet, de se renseigner sur une copropriété. Aussi bien, d'ailleurs, que le registre des copropriétés hein, qui a été créé, qui est aussi un outil qui est utile. Mais bon, bah, comme tout, il faut que ça rentre dans la norme. Mais bien sûr, il y a plusieurs critères au niveau des extranets, c'est clair.
Merci beaucoup, Vincent. Alors, pourquoi Francis Vaillant en dernier? Parce que, et Anne l'a évoqué hein, à demi-mot, il y a un autre mode de gestion que peuvent choisir les copropriétés, les plus importantes d'entre elles. Hein, c'est pas pour rien que voilà, tu es aussi un membre de l'USGC. Un mot sur cette modalité de gestion, l'organisation en syndicat coopératif, donc un syndic bénévole qui n'est pas un syndic professionnel. Ton regard sur ce choix, il ne concerne pas tout le monde.
Alors, il se fait. Alors, bonjour pour tout le monde. Il se fait que dans la salle, il y a un quatrième Francis qui est d'Élysée 2, le président
d'Élysée 2. C'est un congrès, en fait, de Francis. Je ne le savais pas, d'accord.
C'est assez particulier. Très bien. Alors, j'ai double même casquette.
Il a des cheveux, hein, j'ai l'impression.
Oui, il a un peu plus de cheveux
que nous. Il n'est pas du même club, tout à fait, alors, d'accord.
Et donc, j'ai une double casquette, à la fois USGC, donc Union des syndicats des grandes copropriétés, parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la copropriété en tant que professionnel, mais également dans une copropriété coopérative. Alors, il faut savoir que 85% des syndicats sont en syndicat, ce qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire géré par un syndic professionnel, et il y a 15%, c'est peut-être aussi la proportion d'ici des interlocuteurs dans l'assistance, qui a 15% de syndics coopératifs.
Intéressant, ce chiffre, on l'a pas en tête, c'est voilà, hein, c'est
alors sur
une copropriété sur 6.
Sur 800 000 copropriétés, ça représente quand même un certain nombre de copropriétés. Et alors, la caractéristique du syndicat coopératif, c'est que c'est une forme juridique qui est différente. Alors, pour vous donner le critère le plus important, c'est que lorsque vous élisez un syndic, c'est un suffrage universel, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la copropriété qui va élire le syndic en assemblée générale. Tandis que dans un syndicat coopératif, c'est le conseil syndical qui élit le syndic. Donc, vous voyez, c'est déjà pas tout à fait la même chose. Alors, je sais qu'en copropriété, le conseil classique, ordinaire, le conseil syndical n'est pas obligatoire. À condition, bien sûr, que l'Assemblée générale le décide. Tandis qu'en copropriété coopérative, le conseil syndical est obligatoire et pour cause. Pourquoi ? Parce que celui qui va devenir le syndic c'est le président du conseil syndical. Donc il faut d'abord un conseil syndical avant d'avoir le
syndic.
Bien sûr. Et d'où le terme d'ailleurs de président syndic. Je sais que dans certaines copropriétés, il y a des présidents de copropriété d'un côté, enfin de conseil syndical, et puis il y a le syndic bénévole à côté.
Mais en général, il y a identité entre
c'est interdit.
Les deux.
C'est le président du conseil syndical qui doit être syndic. Et alors, ne pas confondre aussi syndic bénévole et syndic bénévole. En copropriété coopérative, le syndic est obligatoirement bénévole, en syndicat ordinaire, il peut être un syndicat professionnel, mais il peut également être un syndic bénévole, sachant que le syndicat garde sa forme ordinaire. Donc, avant de passer en coopération, avant d'élire le conseil syndical et le président syndic bénévole, il faut d'abord élire que l'Assemblée générale choisisse la forme coopérative.
C'était un préalable nécessaire. Maintenant, en quelques phrases, les critères, on en revient à cette grille, qui peuvent conduire une copropriété à faire ce choix d'organisation. D'évidence, il y a l'importance. Hein, ce ne sont que des grosses copropriétés qui ont fait
pas
ce choix.
Pas forcément. Bon.
Mais alors voilà, donc, alors, je suis
on va retrouver
à la tête
les mêmes
d'une copropriété, je préside un conseil syndical, voilà, il existe. J'ai le choix de me passer de syndic professionnel. Dans quel cas et dans les autres cas, ce n'est pas souhaitable.
Alors, on va retrouver les mêmes critères. C'est-à-dire que, alors, au niveau du coût, le syndic est bénévole. C'est même obligatoire. Un syndic bénévole, enfin, en copropriété coopérative qui se fait rémunérer, c'est interdit. Donc déjà, en termes de coût, il coûte moins cher qu'un syndic professionnel.
Il peut recevoir des indemnités, pour autant ?
Il peut recevoir des indemnités de frais, mais pas de...
Des frais, non,
pas
c'est
de,
ça. Oui, tout à fait.
Pas de jetons de présence, par exemple.
Oui.
Ou de, bon. Alors, oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'un syndicat coopérative va se doter de professionnels comme moi par exemple, eh bien c'est des professionnels qui vont être dédiés uniquement à ce syndicat. Donc la gratuité n'est pas si gratuite que ça, dans la mesure où le personnel qui va essayer de... Alors c'est à partir de 500-600 lots, il va pouvoir se payer un gestionnaire, un comptable, etc. Qui donne, je dirais, pour un syndic professionnel, le même personnel va gérer 10 000 logements, alors que dans un syndic coopératif, il va gérer que les 500 logements ou les 1000 logements. Donc vous voyez, la proportion de coût du personnel qui est derrière un syndicat coopératif est quelquefois plus important qu'on peut l'imaginer. Alors, le deuxième critère, c'est la pérennité, parce qu'effectivement, une fois que vous êtes en syndic coopératif, vous êtes obligé, à moins de l'Assemblée générale de décider autrement, de rester en syndicat coopératif. Donc, vous allez avoir une certaine pérennité dans le personnel de gestion.
D'accord.
Et ensuite, en termes de proximité, alors évidemment, ce sont des gens qui sont sur place, puisque souvent, même dans les règlements de copropriété, on demande à ce que le président syndic soit un habitant de la copropriété. Donc, voilà. Il est obligatoirement résident, et donc, d'où la proximité.
D'accord.
Et souvent, d'ailleurs, dans les grandes copropriétés, le bureau se trouve dans la copropriété. Elle ne se trouve pas du tout à 3 km, 5 km, ou à Nîmes ou à Marseille. Elle se trouve sur place. Donc
d'accord.
Là aussi, on va retrouver tous ces critères dans la copropriété coopérative.
Parfait. Alors, je voulais qu'il puisse y avoir quelques questions. Il n'y en aura pas beaucoup parce que. Mais je crois que beaucoup de choses ont été dites. Alors, il y a peut-être un peu moins besoin de questions, mais cela dit, vous levez la main et je vous prête ce micro. Et voilà.
Merci. Bonjour, messieurs. Vous parlez de disponibilité du gestionnaire.
Messieurs, dames.
Excusez-moi, madame. Donc, on parlait de disponibilité du gestionnaire. À votre avis, un gestionnaire, combien peut-il gérer de l'eau en moyenne dans des petites copropriétés ?
Alors, je veux bien répondre à cette question, monsieur. Je vais vous dire, ça va dépendre véritablement du taux de difficulté des immeubles que l'on gère. Et... du temps à consacrer et en fonction des projets. Si par exemple vous avez une copropriété de 300 lots sur lequel vous avez un projet de rénovation énergétique très lourd, avec accompagnement, je suis plus sur le terrain depuis pas mal de temps, mais Sandra Véportelli qui est là, elle passe beaucoup de temps en soirée à accompagner ses collaborateurs pour les AG ou les conseils syndicaux. Et je vois bien que... modéliser un projet de rénovation, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut absolument comprendre, le dirigeant d'un cabinet doit être en capacité de comprendre qu'il y a des moments où il faut savoir réaménager les portefeuilles pour donner de l'oxygène et être en capacité de donner le service attendu. Je vous dirais que si vous prenez un immeuble neuf, parce qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais bon, chez nous, on prend à peu près 80% des immeubles
neufs.
Très
bien que tu l'abordes. Ça concerne les propriétaires ici, bien
voilà,
sûr.
Voilà, pourquoi ? Parce que prendre un immeuble neuf, c'est...
Problème de livraison.
Avec une feuille blanche.
Voilà.
Écrire toute l'histoire de la copropriété. Monter les premiers marchés avec les prestataires pour entretenir. S'assurer évidemment que les livraisons soient bien faites avec le parfait achèvement, la biennale, la décennale, etc. Et faire des réunions sur place, lever des réserves, etc. Bon, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de temps. Il y a énormément de choses à faire. Et on ne peut pas aujourd'hui demander à un gestionnaire de gérer autant de lots et autant d'immeubles quand il a des immeubles neufs que s'il a que des immeubles anciens sur lesquels tout est déjà mis en place, avec des conseils syndicaux qui sont souvent très impliqués, très professionnels, à qui je rends hommage d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de grande qualité dans les immeubles qui s'impliquent énormément. Et là, on voit des gestionnaires qui sont accompagnés, qui peuvent bien faire. Et quand on est sur du neuf, je vous assure vraiment, c'est très difficile pour nos équipes de mettre en route. Et il faut, chez nous, en tout cas, on est staffé, on est modélisé pour permettre à ses collaborateurs d'avoir le temps disponible d'absorber en fait ces nouveaux immeubles. J'espère donc, avoir répondu à votre question.
La réponse est vraiment du sur-mesure en fonction, alors il y a le profil du gestionnaire. Difficulté, elle peut être sur un petit immeuble parce qu'il est neuf, elle peut être sur un plus gros immeuble, mais c'est vraiment, il faut une appréciation extrêmement fine, quoi. Ça, c'est le boulot du manager.
C'est là où nous, on se voit toutes les semaines, évidemment, pour discuter des... de ce qui va se passer, hein, de l'année qui va suivre, de toutes des modifications réglementaires. Vous voyez, par exemple, à partir du 1er janvier 2023, il y a l'obligation pour les immeubles de plus de 200 lots de présenter le plan pluriannuel de travaux avec le DPE collectif. Ça va ensuite s'étaler entre 2024 et 2025 jusqu'à tous les immeubles, même ceux qui n'ont pas de chauffage collectif, auront en tout cas la possibilité de voter le DPE collectif. Et peut-être qu'un jour, ça sera même demandé par les notaires au moment des ventes. Vous voyez,
c'est
donc
probable.
Il y a énormément de transformations. Et je pense qu'un cabinet qui fonctionne bien, c'est tout un ensemble. C'est un dirigeant impliqué. C'est une équipe qui, évidemment, remonte les informations et les difficultés. Et à un moment donné, de modéliser, d'ajuster les portefeuilles en fonction. Alors évidemment, je vais vous dire qu'un collaborateur qui aurait 70 immeubles à gérer, c'est impossible. D'accord, on est d'accord.
Même
si c'est des immeubles qui tournent, c'est impossible. Et donc, il y a un juste milieu à trouver dans tout ça.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a une équation économique. Il faut rappeler, vos cabinets sont des entreprises. On a parlé d'honoraires, on a parlé de masse salariale. Hein. C'est le premier poste.
Et aujourd'hui, la revendication des collaborateurs, les nôtres, j'imagine ceux de tous nos confrères, c'est évidemment avec l'inflation, c'est d'avoir des augmentations quand même très importantes.
Bien sûr.
Il y a des discussions qui ont lieu actuellement pour 2023. Et il en sortira forcément quelque chose à la faveur des collaborateurs qu'il va bien falloir répercuter aussi au niveau des honoraires. Parce que tout augmente. Et là, on est vraiment dans une situation très complexe avec une tension sociale qui est très forte, très marquée et qu'on ressent.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à demander, je te pose la question parce que tu as le micro, le niveau de formation? Alors j'en parle voilà, avec un peu d'arrière-pensée, parce qu'il y a quelques écoles qui mettent sur le marché des diplômés, bac plus 3, le CNPI a aussi son établissement de formation qui intervenait hier, bac plus 3, bac plus 5, ça devient très courant sur le métier de gestionnaire. Ça a un prix. Est-ce que les copropriétaires qui cherchent un syndic peuvent demander... Allez, le CV, on va dire, du gestionnaire qu'on est prêt à leur donner. Ça peut être compensé par de l'expérience. Celui qui a 20 ans...
Exactement. Tu as tout à fait raison. Alors, la formation, elle doit être continue. N'est plus possible aujourd'hui d'avoir un collaborateur qui arrive dans l'entreprise il y a 20 ans. C'est comme les médecins, finalement. Hein. Les techniques médicales d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Nous, on a des plans de formation internes continus. Nos collaborateurs sont formés toute l'année, en permanence. Ils sont formés en interne, mais ils sont aussi formés par des experts avec qui nous collaborons toute l'année, qui viennent former nos équipes pour leur expliquer toutes les évolutions réglementaires et techniques.
Parfait. Une autre. Allez, on prend le temps d'une autre question. On ne pourra pas aller bien au-delà. Mais ils restent à votre disposition, surtout, voilà, je le précise, hein, sur les stands qui sont les leurs, Foncia, SNPI, 1, 2, 3, Lionel, enfin voilà, bon, et l'USGC est à votre disposition aussi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais adjuger, mais surtout, parce que moi, j'ai trouvé qu'ils avaient parlé avec une... Il y en a une que je ne vois pas. Ah bon ? Oh ! Sébastien Katé-Wagner. Alors là, vous êtes à être bon. Hein. Le spécialiste de la copropriété de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat. Il a le droit aussi à poser une question.
Donc, bonjour à tous. Donc, Sébastien Katé-Wagner, merci de m'avoir présenté de l'ANA. Je suis venu qu'en fin, donc je suis vraiment navré peut-être que vous en avez parlé. Et j'ai peut-être un regard biaisé du fait que c'est surtout les copropriétés en difficulté et fragiles que je vois arriver à mon bureau, etc. Donc je tiens à m'excuser par avance si j'ai un regard qui est biaisé. Mais je me rends compte du fait de l'augmentation de l'énergie, des difficultés de paiement des charges des copropriétaires, qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, on va dire, dans la configuration des syndics. Et je vais faire un parallèle avec les bailleurs sociaux. On va dire, on a un système de filet de sécurité avec un accompagnement social, je vais le dire comme ça, pour accompagner les copropriétaires dans les, qu'ils ont en gestion, parce qu'ils sont aussi syndics, dans leur plan d'appurement, dans l'accompagnement social, de trouver, on va dire, les budgets qu'il faut, notamment des aides que peuvent donner le FSL, etc., d'accompagnement. Et je me disais, est-ce que ça rentre dans la machine ? En tout cas, leur donner les contacts des collectivités locales qui peuvent accompagner ces copropriétaires qui sont en paiement en déficit de charge, des systèmes d'alerte, pour qu'ils puissent retrouver le bon interlocuteur. Parce que là, je vais m'autocritiquer, hein, l'administration française est ce qu'elle est, avec ce millefeuille administratif que sont les collectivités locales, où quand c'est une personne seule, c'est plutôt le CCAS de la ville, quand c'est une famille, c'est plutôt le département au niveau social, quand c'est un retraité, c'est plutôt une autre structure. Mais en tout cas, s'il y a cette vision-là qui est faite en même temps que vos chargés de mission contentieux impayés, s'il y a cette mission qui est faite pour leur trouver des solutions qui sont derrière. Et après, une petite félicitation tout de même, parce que MPR copropriété, notamment fragile ou saine, il y a une vraie montée en puissance, en tout cas des syndics. Alors c'est peut-être par les formations, les différents dispositifs C2E qu'il y avait eu ces derniers temps en termes de formation direction des gestionnaires. Mais on voit bien qu'il y a des gestionnaires qui sont passionnés sur ce sujet de rénovant. Et on voit bien qu'il y a une sorte de différence entre les syndics passionnés qui font beaucoup de rénovation et d'autres qui ne sont pas encore lancés sur ce sujet. Et la dernière question, je suis désolé, j'en pose plein, c'est est-ce que vous commencez aussi à avoir cette vision de la transition démographique, du vieillissement de la population et du besoin d'adapter les parties communes à destination de cette population vieillissante?
Henri, j'aimerais bien intervenir sur ce sujet-là, si tu permets.
Absolument. Donne 5 minutes simplement.
Voilà, ça va être très court.
C'est pour ça.
On a à peu près 10 millions de logements en copropriété et 5 millions en bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on est le double du parc HLM. Eh bien, sauf que la copropriété moyenne fait 12 lots et que le monde social a déjà un lobby qui existe depuis 40 ans, 50 ans. Ils ont des congrès d'HLM, ils ont tout un lobby qui est bien organisé, alors que nous, on a tardé à mettre en place ça. Et on a tardé à mettre en place cette formation qui manque beaucoup cruellement. Tous les ans, on construit des copropriétés nouvelles et on manque de ces professionnels. Et ce manque de lobbying nous fait cruellement défaut en ce moment pour justement développer. Et c'est pas avec l'atomisation de ces petites copropriétés qu'on va réussir à le faire. Donc, je pense que c'est au niveau des syndics et des syndics professionnels, là, je prêche pour contre ma paroisse, mais c'est comme cela que se doit se développer ce type de lobbying. Et donc, alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le privilège, le super privilège du syndicat? Je suis sûr que beaucoup de gens le connaissent.
Oui,
pas.
Lui, oui, je pense qu'il y a pas de doute.
Je suppose que oui. Alors, justement, c'est le moyen justement pour lutter contre les impayés.
Alors simplement, Sébastien peut-être n'était-il pas là quand il a été évoqué par Francis Dupas Foncia, notamment la capacité désormais à recouvrer les charges dans ces situations difficiles. Mais si on parle de mobilisation des aides, d'accompagnement, est-ce qu'effectivement il n'y a pas un progrès dans la formation à faire pour être capable de prévenir les difficultés d'une copropriété, accompagner une copropriété qui a déjà basculé? Voilà, un petit mot là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment crucial.
Je ferai juste une distinction entre les copropriétés en difficulté et les copropriétés en difficulté. Les copropriétés en difficulté, c'est légiféré. Il y a dans la loi de 65 une batterie d'articles sur les copropriétés en difficulté.
Procédure d'alerte.
Et là, je pense que les syndics ont fait un réel progrès parce que le législateur les a incités. Bon, il faut bien un moteur. Et sur les copropriétés en difficulté, il y a même des syndics qui se sont spécialisés là-dedans. Et je pense qu'il y a une vraie réponse. Après, aux syndics professionnels qui ne maîtrisent pas ce domaine des copropriétés en difficulté, à orienter vers les syndics qui le maîtrisent en termes de compétences, de temps aussi, puisque ça prend quand même plus de temps.
Il y a même
temps.
Une certification, on peut bien le dire, parce que fait, voilà, Lana et Sébastien
Pour les copropriétés en difficulté, je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait par les syndics, en tout cas certains, au sein des syndicats, et SNPI et FNAIM, nous sommes en capacité d'orienter vers les syndics qui ont cette maîtrise. Maintenant, le copropriétaire en difficulté, alors ça rejoint une réflexion que m'avait faite il y a quelques années une copropriétaire qui avait reçu une de mes lettres de mise en demeure, qu'elle trouvait extrêmement agressive. Je l'ai relue et... Vrai. C'est vrai. Elle était agressive. Et donc, nous l'avons amoindrie et nous avons notamment mis en place des envois de courriers qui proposent des rendez-vous, qui proposent de se rencontrer, de discuter des difficultés. Alors, c'est un premier pas. Parce que clairement, nous ne maîtrisons pas les aides sociales aux difficultés économiques, à la pauvreté, à la crise, à la précarité énergétique, nous ne les maîtrisons pas. Soyons clairs, on ne va pas. Le premier pas, c'est la rencontre. Le premier pas, c'est le contact. Ce que nous n'avons pas avec les logements sociaux, entre un bailleur et son locataire. Le contact est beaucoup plus régulier. Moi, il m'arrive de ne jamais connaître un copropriétaire depuis 7-8 ans dans un immeuble que je gère, qui est en impayé, à qui j'ai fait 3 procès. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Voilà. Et ça, c'est toute la difficulté. Je pense que nous nous améliorerons lorsque nous trouverons un moyen d'assurer un meilleur contact physique, que ce soit au téléphone, peu importe. Mais je pense que ça, c'est le premier pas. Alors, voilà, on a amélioré un petit peu les mises en demeure, les courriers, en proposant de rendez-vous, en rappelant que nous sommes ouverts aux discussions, aux échéanciers. C'est ça, le premier pas. Après,
la formation. La suite, c'est la formation. Hein, c'est qu'il y a une vraie culture et ça, nous aussi, des aides publiques, de l'accompagnement. Et c'est clair
qu'il y a un chemin à faire. Mais en revanche, pourquoi pas, et je vais en parler au sein de la FNAIM, pourquoi pas préparer une formation, dans la formation continue, dans nos 14 heures annuelles ou plus pour certains, pourquoi pas effectivement insérer une sorte de rappel, de précision sur qui, pourquoi, effectivement, le département, la région, la commune, les caisses de retraite, etc., la sécurité sociale aussi, etc., qui peuvent effectivement accorder des prêts, des aides, des choses comme ça. Pourquoi pas ? C'est effectivement une idée, je vais en parler au sein de la commission syndic de la FNAIM, et je pense qu'il y a effectivement une piste d'amélioration. Après, pour le vieillissement, la vraie difficulté, c'est que, et très bizarrement, la plupart des copropriétaires sont contre l'aménagement de rampes, l'aménagement de garde-corps, l'aménagement de différents outils qui pourraient aider les personnes, alors que la plupart de nos clients sont âgés.
Sont vieillissants.
C'est un vrai paradoxe. Puisque même si le syndic ne peut pas être contre les aménagements, on ne peut pas être contre, c'est pas possible, il n'y a pas de raison qu'on le soit. Et l'opposition, elle vient d'abord des copropriétaires, même âgés, qui résident dans ces appartements.
Alors je signale une table ronde, je crois qu'elle n'est pas encore passée, en tout cas c'est aujourd'hui sur ce salon, sur le bien vieillir dans son logement en copropriété, avec des experts, des regards très 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 différents. C'est un grand sujet. Ce sera vraiment le mot de la fin. Oui,
juste intervenir sur votre question sur les impayés et tout. Il faut quand même rappeler que le syndic, lui, il est aussi garant de la trésorerie de l'immeuble, et donc les impayés, c'est pas du tout dans son intérêt. Et moi, je sais qu'à notre niveau, on est toujours dans le dialogue avec les copropriétaires pour essayer de trouver des solutions. Et engager une procédure juridique, c'est du temps, et ce temps-là, on préfère l'utiliser à autre chose. Donc on va toujours quand même privilégier le dialogue avec les copropriétaires. Mais après, le copropriétaire qui est en situation d'impayé, même si lui, bien sûr, on respecte, il peut avoir des difficultés, il doit lui aussi comprendre que sa situation peut mettre aussi en difficulté les autres, bien par sûr, un effet domino. Et nous, en tant que syndic, on ne fait que notre travail, qui est de faire en sorte que la copropriété fonctionne, quoi.
Alors, j'interromps là, même si on voit bien que vous chauffez, il pourrait y avoir d'autres questions. Vous les posez de manière privative. Je trouve qu'ils ont fait preuve d'une très grande franchise, sincérité. Ils ont fait un travail d'analyse, chacun à sa mesure. Ils se sont très bien complétés. Voilà, c'est, je l'avais annoncé, mais ça s'est réalisé. Vous les applaudissez, je vous prie, c'est leur seule rétribution. Merci beaucoup.